Bonjour à tous, bienvenue dans un tout nouvel épisode du Fashion Inside Out podcast, le podcast pendant lequel nous, élèves de l'Institut français de la mode, échangeons avec les professeurs de l'école à propos de leurs sujets d'expertise. Je suis votre hôte Émilie Joyot, élève du MSI, et aujourd'hui je suis avec Alice Audrezé, enseignante-chercheuse en marketing. Bonjour Alice, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Pourriez-vous vous présenter, nous dire ce que vous enseignez à l'IFM, ainsi que votre domaine de recherche ?
Alors, donc, je suis Alice Audrezé, j'enseigne le marketing à l'IFM. J'ai trois principaux domaines de recherche. Le premier, c'est sur la mode pudique ou mode modeste. Et je m'intéresse notamment à la manière dont les consommateurs non ciblés par cette mode pudique, donc en particulier des consommateurs non religieux, vont réagir aux initiatives de commercialisation de mode pudique en France. Voilà, puisqu'il y a eu un certain nombre de polémiques et j'essaie de comprendre pourquoi, comment. Le deuxième grand sujet de recherche, c'est les influenceurs, que ce soit donc les influenceurs humains. Et je me suis notamment beaucoup intéressée à la question de l'authenticité, comment ils managent leur authenticité, et plus récemment les influenceurs virtuels, et qui repose d'une autre manière la question aussi de l'authenticité. Et puis, je travaille aussi sur la mode queer.
Comme vous l'avez mentionné, vous travaillez sur les notions d'influenceur et d'influenceur virtuel. Pouvez-vous définir ces deux notions et quelles sont les principales différences entre les deux ?
Les influenceurs, c'est un concept qui est bien connu maintenant du grand public. Donc, ce sont des créateurs de contenu qui ont réussi à fédérer une certaine audience sur les plateformes de médias sociaux en partageant donc, leur vie quotidienne, leurs opinions, leur expertise et notamment des expertises sur les produits. Ce qu'ils font principalement, c'est qu'ils recommandent des produits et des marques en étant payés ou en ayant en tout cas des formes de rétribution offertes par les marques. Et donc, de manière plus générale, ce sont ceux qu'on appelle des Instagrammeurs, des YouTubeurs, des TikTokers, etc. Les influenceurs virtuels, ce sont donc des avatars qui sont générés par ordinateur et qui, eux aussi, partagent du contenu en ligne sur les différentes plateformes de médias sociaux et qui interagissent avec leurs abonnés. Donc, c'est la même chose, sauf que ce sont donc des créatures virtuelles qui ont été dotées d'une sorte de personnalité, c'est-à-dire qui s'expriment à la première personne, mais ils sont opérés, ils sont managés par une tierce personne ou des tierces personnes qui peuvent être donc soit des créateurs indépendants, soit des agences digitales, soit des marques. Et donc, les personnes qui les opèrent ont défini un storytelling pour ces influenceurs virtuels dans le but de servir des objectifs d'influence. Donc, comme les influenceurs humains, l'objectif est le même, hein, c'est de promouvoir des produits et des marques. Pour rendre les choses un peu plus concrètes, je peux vous parler, si vous voulez, de Lil Miquela. Lil Miquela, c'est une des influenceuses virtuelles les plus connues. Elle est suivie par 8 millions de personnes, toutes plateformes confondues. Elle a été créée en 2016, mais en fait, on a entendu vraiment parler d'elle à partir de 2018. Donc en fait, Lil Miquela, elle était créée par une agence qui s'appelle Brud, une agence californienne, qui a créé une sorte de famille de Miquelites, qui sont des amis pour Lil Miquela. Et donc, une de ses amies, qui s'appelle Bermuda, a révélé au monde en 2018 que Lil Miquela n'était pas une vraie personne, mais était un robot, c'est le terme qu'ils emploient, un robot influenceur. Et Lil Miquela a, à cette occasion-là aussi, découvert elle-même qu'elle n'était pas une vraie personne, mais qu'elle était un robot. Donc tout ça, ça a créé un buzz. C'est ce qui fait que c'est une des plus connues aujourd'hui. Elle est Forever 19, c'est-à-dire qu'elle a toujours 19 ans et qu'elle refête son anniversaire chaque année. Elle vit à Los Angeles, donc elle interagit, elle répond à ses abonnés. Elle est invitée au défilé de mode. Elle collabore avec des marques très connues comme Calvin Klein, Samsung Galaxy. Elle partage sa vie sentimentale, ses déceptions amoureuses. Elle est activiste, notamment elle soutient Black Lives Matter. Et elle est devenue chanteuse. Donc voilà, pour vous donner un petit peu le type de storytelling qui a été construit autour de ce personnage. Et donc, depuis qu'elle a découvert en 2018 qu'elle n'était pas une humaine, mais un robot, elle a des robot issues. Et donc, c'est aussi tout un storytelling que l'agence a construit. C'est-à-dire qu'elle se demande régulièrement si, en fait, ce qu'elle ressent, dans la mesure où elle est un robot, mais pas un humain, un petit peu quelle est la valeur de ce qu'elle ressent.
Évidemment, nous comprenons que ce sont des créateurs de contenu différents. Et donc, les influenceurs virtuels ne remplaceront pas les humains. Cependant, la question que nous pouvons nous poser est, dans quelle mesure est-il préférable de faire appel à un influenceur virtuel en tant que marque ?
Alors, il y a pas mal d'avantages du fait de passer par un influenceur virtuel. Et le premier, je dirais que c'est un avantage écologique, en fait. Un influenceur virtuel a quand même une empreinte carbone plus limitée, même si ce n'est pas neutre. Hein. On connaît la pollution numérique. Mais bon, il ne prend pas l'avion, ne se nourrit pas. Et bah, par exemple, si on parle de mode, les vêtements qu'il ou qu'elle porte, c'est de la mode digitale hein, qui a été adaptée sur le personnage virtuel. Donc, ça pollue nettement moins. Pour une marque, c'est aussi encore un moyen de se différencier. C'est-à-dire qu'il n'y a quand même pas encore beaucoup de marques qui ont sauté le pas. Donc, voilà, c'est un bon outil de différenciation. C'est très, très adaptable aux demandes des marques. Ce n'est pas comme d'interagir avec une vraie personne qui a sa propre ligne éditoriale. Alors là, quand c'est géré par une agence, l'agence a la ligne éditoriale pour le personnage, mais comme l'unique but est celui de l'influence, on peut imaginer quand même que la capacité à s'adapter aux besoins de la marque est beaucoup plus grande. Il y a aussi un contrôle qui est meilleur, et notamment, ça permet de réduire les risques de scandale. Parfois, les influenceurs font une overdose, ont des propos inappropriés, etc. Là, on est quand même sur un personnage qui est très contrôlé, qui est géré souvent par une équipe. Donc, même si ce sont des humains qui sont derrière ces influenceurs virtuels, quand il y a toute une équipe qui contrôle tous les messages, ça limite quand même très largement les risques. Il y a des scandales qui sont parfois orchestrés, notamment donc, entre Lille Miquella et son ami Bermuda. Alors, c'est peut-être pas un scandale, mais en tout cas, c'est pour vous montrer comment ça peut être orchestré. Il y avait toute une discussion, c'est-à-dire qu'initialement, Bermuda était trumpiste. Lille Miquella, qui elle est plutôt progressiste, démocrate, soutient Black Lives Matter, a cherché à convaincre Bermuda de changer d'opinion. Donc ça donnait aussi une occasion de discussion. Donc ça, on peut dire, ok, les marques, elles n'ont pas trop envie d'être mêlées à ces conversations politiques. Oui, éventuellement, enfin en tout cas, les marques qui vont vouloir travailler avec Lille Miquella, c'est aussi des marques qui s'inscrivent dans un positionnement plutôt progressiste, etc. Autre scandale, Lille Miquella, à un moment donné, a révélé le fait qu'elle avait été agressée sexuellement. Ça a fait un énorme bad buzz parce que, en fait, sa communauté a trouvé que c'était pas un storytelling très judicieux pour un robot, en fait. Ça arrive à des vrais gens et que, du coup, ça pose la question hein, de quel type d'émotion on veut bien lui prêter. Et ça, c'était des émotions que les gens ne sont pas prêts à lui prêter. Mais en tout cas, tout ça, c'est des choses qui ont été réfléchies par l'agence. On peut se dire que parfois, ils font un peu des bourdes, ils poussent toujours plus loin les limites, mais c'est des choses réfléchies. Dernier argument en faveur des influenceurs virtuels, mais là, qui est à prendre avec des pincettes, le taux d'engagement serait 3 fois supérieur si on regarde à niveau d'abonnés équivalent. Alors, je dis qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que ça, c'est les chiffres que donnent les agences qui gèrent des influenceurs virtuels. Donc, bon, ils ont un intérêt certain à dire ça. En fait, je pense qu'ils sont trop peu nombreux. On compte à peu près 200 influenceurs virtuels qui ont une communauté suffisante pour qu'on puisse parler d'eux et qui sont référencés sur le site virtualhuman.org, qui est vraiment une ressource intéressante par rapport aux influenceurs virtuels. Je ne suis pas sûre qu'ils soient assez nombreux pour qu'on puisse vraiment comparer 200 influenceurs virtuels à des millions d'influenceurs humains. Mais bon, voilà, sur les cas, il y a un certain nombre de cas qui sont effectivement c'est des vrais succès et qui ont un taux d'engagement très élevé, ça c'est sûr. Mais il y a quand même des inconvénients liés à l'utilisation des influenceurs virtuels. Le premier, c'est qu'ils sont limités par la technologie. Alors ça, c'est quelque chose qui va certainement évoluer très rapidement. Mais pour l'instant, Lille Miquella, en fait, c'est avant tout un visage généré par intelligence artificielle qui est posé sur un vrai corps d'humain. Avec des filtres, ils arrivent à lui donner cette impression un peu robotique. Ils ont eu besoin de faire ça pour pouvoir la faire bouger. Parce que sinon, c'est très difficile de réussir à animer complètement un personnage entièrement. Toutefois, c'est le cas de Livy. Elle est complètement animée, il n'y a pas un humain derrière. Pour l'instant, il y a ce type de limite, mais on peut imaginer que ça ne va pas tarder, enfin, on voit hein, que ça n'arrête pas d'évoluer. L'autre limite, très claire, c'est la question du contrôle de la communication. C'est donc une communication qui, par définition, n'est pas spontanée et contrôlée par un créateur, une agence, etc. Et on peut se demander dans quelle mesure ça va être aussi convaincant pour les personnes qui suivent ces influenceurs virtuels.
Justement, qu'en est-il du côté client, de la perception de la marque et de son message s'il est porté par un influenceur virtuel plutôt qu'un humain ?
Je pense que derrière cette question, il y a plusieurs choses, mais principalement, il y a la question de l'authenticité. Déjà, pour les influenceurs humains, c'est une question qui est centrale. On leur a une injonction à l'authenticité, à essayer de faire ressortir leur vrai soi, qui est très forte. Mais là, on peut se dire que c'est encore plus aberrant. Comment pourrait-on trouver authentique une personne qui n'existe pas ? Il y a vraiment une sorte de contradiction absolue dans le phénomène de l'influenceur virtuel. Pour autant, il y a un certain nombre d'arguments en faveur des influenceurs virtuels. Alors, le premier qu'on entend souvent, alors, c'est plutôt un discours commercial de la part des agences qui les gèrent, c'est de dire, en fait, les influenceurs virtuels assument leur virtualité, le fait qu'ils n'existent pas, contrairement aux influenceurs humains qui, eux, essayent de créer un discours d'authenticité. Donc, voilà, ils sont sincères, finalement. Ils sont sincères dans le fait qu'ils n'existent pas. Il y a d'autres formes d'authenticité qu'on peut observer chez ces influenceurs virtuels. En particulier, il y a des travaux sur l'authenticité qui disent que, en fait, être authentique, c'est correspondre à un idéal, un construit social que les gens ont à l'esprit. Et en l'occurrence, il y a plusieurs idéaux derrière l'influenceur virtuel. Il y a l'idéal humain, en tout cas quand on parle d'un influenceur virtuel qui est une apparence humaine, tendre vers l'humain. Il y a aussi tendre vers le virtuel, tendre vers le robot. Et le troisième, ce serait tendre vers le personnage, puisque ce sont aussi des personnages de fiction avec une histoire, un storytelling, etc. Et en fait, on se rend compte que ces influenceurs virtuels, ils peuvent tendre vers ces différents idéaux de manière très satisfaisante. Et en ça, ils créent de l'authenticité. Donc, c'est une forme d'authenticité dans le sens où ils correspondent à l'idéal, le construit social qu'on se fait de ces personnages-là. Donc, c'est très important, en tout cas, pour créer un influenceur virtuel, que d'avoir en tête qu'il faut tendre vers ces idéaux sans pour autant les atteindre parfaitement, notamment sur la question de l'humain. En fait, il y a peut-être même l'idée qu'un dosage entre le fait de tendre vers l'humain et tendre vers le robot pourrait être quelque chose de très intéressant. Il y a une théorie en système d'info qui s'appelle Uncanny Valley Effect, donc un effet de un peu d'étrangeté. C'est une vieille théorie, mais qu'on utilise beaucoup, qui disait plus on se rapproche d'une apparence humaine. Donc au début, c'est convaincant, c'est-à-dire quand on passe du robot naïf, plus on l'améliore, mieux c'est. Et il y a un moment, quand on est trop proche de l'apparence humaine, on crée un effet d'étrangeté. Ils prennent plusieurs exemples, ils vont dire les zombies sont très proches des humains, mais ne sont plus des humains. Donc, ça crée de l'étrangeté, etc. Et donc, les humanoïdes aussi créeraient cet effet-là. En fait, nous, ce qu'on arrive à montrer sur la base justement du succès des différents influenceurs, c'est que, en fait, quand on arrive à tendre en même temps vers l'idéal de l'humain et vers l'idéal du robot, de la virtualité, on arrive à faire quelque chose de très authentique. C'est le cas, par exemple, de Lynn Michaela. C'est-à-dire qu'elle tend vers l'idéal de l'humain par son apparence physique. Tendre vers l'idéal de l'humain, c'est pas juste ressembler à un humain, c'est avoir des défauts comme les humains. Bon, elle n'a pas beaucoup de défauts, on est plutôt sur un corps idéalisé. Mais bon, ils ont quand même, on voit un peu l'idée, elle a les dents légèrement écartées. Je pourrais vous développer un autre cas d'influenceurs virtuels sur lesquels ils ont poussé ça de manière beaucoup plus convaincante. Mais elle pourrait avoir aussi des défauts de personnalité. Elle est un petit peu prétentieuse. Enfin voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là. Et autrement, elle tend vers le virtuel, par exemple, parce qu'elle a une sorte de super pouvoir. Elle ne vieillit pas. Elle, c'est un cas de succès. Et en tout cas, elle valide un peu le fait de tendre vers ces deux idéaux, elle tend aussi très bien vers l'idéal du personnage. Et en plus, c'est un personnage qui transcende presque les limites du personnage de fiction, dans le sens où c'est un personnage qui est co-construit par sa communauté. Enfin, ce qui se fait aussi, les personnages de fiction le sont aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, elle coche aussi toutes les cases du personnage. Tout ça, ce sont des sources d'authenticité.
Vous venez de mentionner qu'il y a différents types d'influenceurs virtuels pour différents objectifs. Quels sont ces différents types d'influenceurs virtuels ?
Alors justement, avec mes co-auteurs, que sont Bernadette Coles, Julie Moulard, Brad McKenna et Nisrine Amin, on a établi une typologie des influenceurs virtuels. On a essayé un petit peu de voir sur quels critères ils pouvaient se différencier. Le premier critère, en fait, c'est celui de l'apparence. Donc, soit on a une apparence humanoïde, parfois même humaine, avec toutes les questions éthiques que ça peut poser. C'est le cas de Lynn Michaela, de Livy, qui est donc l'influenceuse virtuelle développée par LVMH pour les questions d'innovation. Ça va être le cas de Ima, une influenceuse virtuelle que vous avez peut-être vue avec les cheveux au carré rose, une japonaise. Voilà, et puis on va avoir d'un autre côté des influenceurs virtuels qui ont plutôt une apparence de cartoon. Alors de manière très extrême, on a Bee Influencer, c'est une abeille influenceuse qui a été créée par la Fondation de France pour sensibiliser à la question de l'extinction des abeilles. C'est un personnage en image de synthèse abeille. On a le cas de Nobody Sausage que vous suivez peut-être sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une saucisse qui danse. Voilà, pour vous donner des exemples en termes d'apparence. Il y a la question du contrôle. La question du contrôle, c'est, en gros, on identifie deux profils. Il y a ceux qu'on va appeler des porte-parole de marques virtuelles, qui ont donc été créés par des marques et qui se dédient à la cause d'une seule marque. C'est le cas de Livy, par exemple, hein, qui est donc la porte-parole de l'innovation pour LVMH. C'est le cas de Barbie. Barbie aussi a un avatar virtuel créé par Mattel. Et on a autrement donc, des agents virtuels libres, comme Lily Michela, comme Choudou. Choudou, donc, c'est un super modèle virtuel noir, aux proportions totalement idéalisées, je pourrais en reparler, qui donc, elles, peuvent faire des collaborations différentes d'une fois sur l'autre, comme n'importe quel super modèle humain pourrait présenter les collections de Chanel, puis de Dior, etc. L'autre point de différenciation, c'est l'histoire. Est-ce que cet influenceur virtuel, il est né influenceur virtuel ou est-ce que c'est un personnage qui existait avant pour lequel on va créer un personnage virtuel, comme c'est le cas de Barbie. Barbie existe avant, mais on crée un influenceur virtuel, alors que Lil Miquela a été créé de toutes pièces. On a la question du positionnement. Alors, on va distinguer des influenceurs virtuels qui ont plutôt une vocation de divertissement, comme Nobody Sausage, vraiment, c'est juste amusant. On peut avoir ceux qui ont une expertise. Par exemple, Choudou, elle a une expertise mode. C'est un super modèle, donc elle a plutôt une expertise mode. Et on va avoir ceux qui sont orientés sur des causes. Donc, je vous ai parlé de Bee Influencer, donc qui cherche à sensibiliser sur la protection des abeilles. On a aussi le cas de Camille, qui est très intéressant. C'est une influenceuse virtuelle trisomique. Ils ont demandé à des familles d'enfants trisomiques d'envoyer des photos. Et ils ont synthétisé une centaine d'images pour créer un visage qui représente ces personnes handicapées et qui leur permette de s'exprimer sur les réseaux sociaux, etc. Donc là, on est vraiment autour d'une cause qui est celle de l'inclusion des personnes trisomiques. Et voilà, c'était mon dernier critère de distinction.
Vous citez Livy. Le site de LVMH cite Livy, acronyme de LVMH Innovation Virtual Insider, et l'égérie, modélisée en 3D, de la campagne de recrutement et Face of Innovation du groupe. Elle a pour mission de promouvoir les projets innovants. Et bien sûr, elle est habillée par les maisons de mode et de joaillerie de LVMH. Que pensez-vous de faire appel à des influenceurs, virtuels ou humains, pour être ambassadeur de marque versus créer des égéries comme Livy?
Si on fait appel donc à ces agents virtuels libres versus ces porte-paroles de marques virtuelles, ça pose la question du coût contrôle-contrôle. C'est très cher en fait. Vous citez l'exemple de Livy de LVMH. Bon, tout est dit. Il faut avoir la puissance de frappe probablement d'LVMH pour pouvoir gérer financièrement ce genre de projet. Après, il y a des projets d'une envergure un peu moindre. La Livy, elle est intégralement animée. Donc, il y a des marques avec des budgets un peu plus limités qui ont pu aussi faire appel à ces porte-paroles de marques virtuelles. C'est le cas de KFC, très grande marque, qui avait créé donc, un influenceur virtuel. Donc là, uniquement sur photo, sur Instagram. Donc, c'est déjà nettement moins coûteux à opérer. Et qui partageait. Donc, c'était sur la base de la mascotte de KFC. Vous savez, ce petit bonhomme moustachu qu'ils ont transformé donc, en une espèce de beau gosse grisonnant qui était comme un cadre sup de KFC qui partage un peu son quotidien, son workout du matin, ses voyages en avion, etc. C'était un projet qui était très intéressant. Là, pour le coup, sur l'authenticité en termes de storytelling, ils étaient très forts puisque au bout d'un moment, ils se comportaient tellement comme un influenceur, copiait tellement tous les codes de l'influenceur qu'il s'est mis à collaborer avec d'autres marques. Donc, c'est l'influenceur virtuel de KFC qui fait des partenariats avec Dr Pepper, avec des marques de montres, etc. Le projet s'est arrêté subitement. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais en tout cas, ce que ça nous dit, C'est que donc, effectivement, il faut avoir un certain budget pour se permettre ça, mais ça peut être très intéressant. Et notamment, je pense que c'est intéressant dans les cas de marques pour lesquelles le produit ou l'offre qu'ils veulent promouvoir est très difficile à incarner. C'est le cas hein, des box de poulet frits. C'est assez difficile à promouvoir. Enfin, si on veut poster quelque chose tous les jours ou plusieurs fois par jour sur les comptes de réseaux sociaux, c'est difficile quand même de se renouveler. Alors que si on crée ce porte-parole virtuel, bah, tout d'un coup, il y a quelqu'un à animer. C'est quand même plus facile pour les abonnés de s'identifier. C'est pareil pour Livy. Livy, donc, c'est la porte-parole de l'innovation à LVMH. Ce n'est pas du tout concret. Ça aurait pu être Bernard Arnault, tout simplement, mais probablement qu'il pense que Livy est plus jeune et justement tend vers cet idéal virtuel que n'a pas Bernard Arnault. Et donc, elle incarne mieux cette question de l'innovation.
Comme vous l'avez mentionné, il y a plusieurs types d'influenceurs virtuels. L'an dernier, Meta a développé un cadre éthique pour l'utilisation des influenceurs virtuels. Quels sont, selon vous, les plus grands enjeux de ce sujet ?
Ça, c'est vraiment très important. Alors, il y a plusieurs choses. De manière générale, le fait d'interagir avec une personne qui n'existe pas. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas beaucoup de recul, en réalité. Mais c'est quelque chose qui va se développer. On va avoir de plus en plus des solutions... Alors, peut-être pas de psychothérapie, mais au moins d'accompagnement vis-à-vis de la solitude qui vont être pris en charge par des agents virtuels. Enfin, voilà, c'est pas directement des influenceurs virtuels, mais en tout cas, la question du fait d'interagir avec un avatar au sens très large qui peut avoir donc différentes vocations, hein, une vocation thérapeutique, mais aussi simplement de divertissement. On n'a pas encore beaucoup de données là-dessus, mais quand on n'est pas dans cette vocation thérapeutique, mais plus de divertissement, voilà, on ne sait pas exactement encore ce que ça peut avoir comme impact, notamment sur des personnes très jeunes. Et en fait, la question se repose si on ne sait pas que cette personne n'est pas une personne réelle. Donc, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie question sur la transparence des influenceurs virtuels, d'autant plus pour ceux qui ont une apparence humaine. Parce que donc, ça pose plusieurs questions. Il y a la question de la disclosure, donc la révélation du caractère virtuel de cet avatar. Et puis, il y a aussi la question de la révélation du nombre de personnes qui opèrent ce personnage virtuel. En fait, nous, dans nos recherches sur l'authenticité, on a vu que ça aussi, c'est un critère important pour les abonnés. Plus l'influenceur virtuel est opéré par une équipe, moins il est perçu comme authentique. Derrière cette question d'authenticité, on voit le problème éthique qu'il y a. C'est que s'il y a 10 personnes qui managent cette personne avec laquelle j'interagis, ben finalement, ça pose même des questions de... un petit peu d'équilibre, en fait. J'interagis avec un seul visage, mais en fait, il y a 10 personnes derrière. Cette conversation n'est pas équilibrée, finalement. Je pose juste des questions, j'ai vraiment pas de réponse à vous donner. Ce qui est sûr, c'est que donc, vous avez dit que Meta a proposé un cadre éthique. De manière plus générale, les États-Unis, donc la FTC, a proposé des guidelines. Ça fait longtemps hein, qu'ils ont des guidelines sur les influenceurs, mais donc ils ont intégré récemment la nécessité pour les influenceurs virtuels de révéler leur caractère virtuel, justement. Pareil en Inde, l'Inde est très avancée en fait sur ces questions législatives. Donc on voit que les gouvernements commencent à s'en saisir et voient que c'est important d'avoir cette transparence-là. Il y a d'autres questions qui se posent, qui sont celles de remplacer les gens par des robots. A fortiori, quand il s'agit de remplacer des minorités, minorités qui parfois ont du mal à trouver un travail dans la vraie vie, on peut vraiment se demander pourquoi l'agence The Digitals crée tout un portfolio de supermodèles noirs. Ils en ont au moins 3, peut-être 4, alors que précisément, les mannequins noirs ont plus de difficultés à avoir des contrats dans l'industrie de la mode. Donc voilà, c'est une autre question éthique que soulèvent les influenceurs virtuels.
En parlant d'inclusion, je pense aussi à l'appropriation culturelle, par exemple, de certains influenceurs virtuels.
Oui, tout à fait. Bah, il y a le cas, par exemple, de Livy. Donc, Livy, elle est définie hein, par ses créateurs comme étant un personnage métisse. Donc, c'est une métisse à la peau très claire, aux yeux verrons. On voit bien que là, on offre une sorte de prétexte aux marques, enfin, une occasion, en tout cas, de se prétendre inclusive, tout en utilisant ce qu'elles ont... toujours fait, notamment quand elles font appel à des célébrités humaines, c'est-à-dire des icônes beiges Pour moi, Libby, c'est vraiment une icône beige, comme les Beyoncé, avec ses cheveux blonds et sa peau qui est toujours très retouchée dans les publicités, de manière à l'éclaircir, pour que tout le monde s'identifie à Beyoncé. Et là, c'est la même chose. Il faut que tout le monde puisse s'identifier à Libby, des personnes blanches comme des personnes noires.
Enfin, ma dernière question pour vous est comment pourrions-nous imaginer l'impact des influenceurs virtuels sur l'écosystème de la mode? Je pense à la mode digitale, aux activations de communication en ligne ou en réalité augmentée, et pourquoi pas au Fashion Week digital aussi.
Oui, alors tout à fait. En fait, les influenceurs virtuels, je pense que ça peut être de très bons passeurs de la mode digitale. Comme ils sont suivis par le grand public, enfin, c'est quand même un public d'initiés, mais en tout cas, on tend vers un public un peu plus général que le milieu très fermé des gamers auxquels pour l'instant s'adresse la mode digitale. C'est un moyen d'ouvrir en passant par ces personnages divertissants, engageants, etc. Donc je pense que c'est vraiment des passeurs de la mode digitale et très clairement, ils ont un objectif commun. Enfin, en tout cas, ils utilisent des lignes de communication communes qui sont celles d'avoir un comportement plus vertueux. Donc, les influenceurs virtuels sont moins polluants, on pourrait dire, que les influenceurs humains. Il y a quand même une très grosse critique des avions à gogo, de la mode qui n'est utilisée qu'à des fins de création de contenu, etc. Pareil hein, pour la mode digitale, donc, puisqu'elle n'est pas produite physiquement, elle a quand même une empreinte carbone qui est nettement plus vertueuse. Donc voilà, ils vont dans le même sens et donc on peut imaginer que les influenceurs virtuels aideront à développer cette mode digitale parce qu'ils développent aussi une nouvelle esthétique, cette esthétique virtuelle qu'on apprend petit à petit à apprécier un vêtement porté par, y compris d'ailleurs par un influenceur virtuel qui ne serait pas forcément humain, je pense à Nounouri qui est une influenceuse virtuelle alors qu'il y a un style humanoïde, mais quand même très cartoon, hein, un visage très naïf, une tête totalement disproportionnée par rapport à son corps, mais qui a été définie par son créateur comme étant couture. Son objectif marketing, c'est de promouvoir des marques de mode. Et il faut reconnaître que c'est très joli ce qu'ils font et la manière dont ils arrivent à adapter, entre guillemets, les vêtements virtuels sur son corps, c'est intéressant. Donc voilà, je pense qu'il y a un rôle autour de ça. Tout ça, c'est très lié au NFT, en fait. Vraiment, les influenceurs virtuels, ça va être les passeurs, les vulgarisateurs aussi des NFT parce que justement ils incarnent et donc ils peuvent nous accompagner dans ces nouvelles technologies.
Merci Alice de cette discussion. Avant de clore ce podcast, j'aimerais vous poser notre question immanquable. Quelle est votre partie préférée dans la recherche et dans l'enseignement à l'IFM ?
Alors, ça va vous faire plaisir. Ce que je préfère, c'est d'encadrer les mémoires. J'adore accompagner en fait les premières démarches de recherche des étudiants. Je trouve ça fantastique quand on sent que l'étudiant, il a mis le doigt sur quelque chose et il ou elle comprend qu'il ou elle va pouvoir apporter sa petite contribution à la science. En fait, le moment où les étudiants comprennent la différence un peu entre les études et la recherche, c'est créer de la nouvelle connaissance. Et c'est quand même, pour moi, un pouvoir magique que de créer de la nouvelle connaissance. Et quand les étudiants arrivent à faire ça, je pense que c'est une vraie satisfaction pour eux. Et donc, d'accompagner quelqu'un vers ça, pour moi, c'est un plaisir infini.
Mille merci Alice d'avoir accepté de jouer le jeu avec ce court format de podcast et à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés. Si vous êtes curieux, restez branchés pour un prochain épisode et abonnez-vous à l'Instagram et le Twitter de l'IFM pour plus d'informations. À très vite dans le Fashion Inside Out podcast.